France Musique. Musique et moi.
Yann Kounen.
Priscille Lafitte. France Musique.
La musique est langage et art. La musique transperce le mental et pénètre le corps émotionnel. L'information, le message, l'état d'être, le sentiment qu'elle porte rebondit dans le corps. L'esprit se laisse faire, s'agite ou résiste. Mais quand il y a lâcher prise, quand l'écoute est complète, corps-esprit, esprit-corps, alors la magie opère.
Bonjour Yann Kounen.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique et moi. Vous êtes scénariste, réalisateur de films. On vous doit notamment Coco Chanel et Igor Stravinsky, nous y reviendrons. 99 francs avec Frédéric Becbédé, le western Blueberry, mais aussi des films documentaires, notamment sur la médecine traditionnelle indigène qui s'intitule D'autres mondes. Et vous avez entrepris depuis 20 ans des voyages au Pérou pour expérimenter les plantes thérapeutique, particulièrement les effets de la décoction ayahuasca, qui, rappelons-le, est prohibée en France, mais en usage dans différentes régions d'Amazonie. Vous portez cette expérience sous la forme d'une bande dessinée, ça s'intitule « Docteur Ayahuasca ». Vous publiez un livre d'entretien avec un chaman et vous participez à l'exposition en ce moment au musée du Quai Branly, une exposition qui s'intitule « Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne », une exposition qui est ouverte jusqu'au 26 mai 2024, donc au musée du Quai Branly à Paris. Votre approche, Yann Kounen, n'est donc pas ethnologique, C'est le travail de David Dupuis, qui est le commissaire de cette exposition au Quai Branly, et l'auteur d'une thèse sous la direction de Philippe Descola. Philippe Descola, qui a lui-même étudié auprès des Indiens Achuar l'effet psychotrope de certaines plantes. On l'avait reçu dans cette émission Musique et moi. Mais votre approche à vous, Yann Kounen, est artistique. Par des dessins, par des films, vous contribuez à rendre visible cette expérience de l'ordre du grand voyage intérieur. Nous allons donc tâcher ensemble de rendre sensible votre approche par la musique, à commencer par cette improvisation au piano de Wim Mertens qui s'intitule Humility. Que représente ce morceau pour vous? Est-ce que le titre est important d'ailleurs, Humilité?
En fait, ce morceau, et Wim Mertens en général, ses albums, je les ai souvent écoutés dans la jungle, au petit matin quand on sort de d'une nuit où on doit être forcément humble en regardant les plantes, le ciel et ce qu'on est. Et c'est, voilà, l'humilité, c'est une douceur bénéfique. C'est comme ça que je vois la chose et je trouve que ce morceau m'a toujours fait du bien dans ces moments-là. Et vous êtes un petit peu à lâcher, à juste respirer et ressentir.
Dans ce Musique et moi, il va surtout être question de votre regard de cinéaste sur la musique. Nous évoquerons Stravinsky, donc, notamment le sacre que vous avez incorporé comme substrat pour votre film Coco et Igor, mais aussi Max Richter, composant les quatre saisons de Vivaldi. Mais pour aller aux sources de cette démarche, il faut peut-être revenir à Dvorak.
Thank you.
Jan Kounen, c'est une symphonie que vous connaissez depuis l'enfance, je crois. Cette 9e symphonie d'Anton Dvorak, dite du Nouveau Monde. Ici, la version enregistrée par Ricardo Chailly à la tête de l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam. Où est-ce que vous grandissez, Jan Kounen ?
Dans le sud de la France, à Grasse. Et à Grasse, ça faisait partie des disques que j'écoutais sur la platine vinyle de mes parents. J'avais découvert plus jeune, à 8 ans, un film qui utilisait de la musique classique, un film de science-fiction. Et donc, quand on est enfant, on a des modèles et d'un coup, j'ai vu la potentialité de l'imaginaire fantastique, fantaisie, science-fictionnelle. Et quand j'avais donc 12, j'adorais mettre cette musique, fermer les yeux. Et des scènes imaginaires venaient. Et il y a cette largeur, ce chemin émotionnel. Et donc, c'est vrai que c'était... Pour mon imaginaire, ça a été une musique qui était importante, que j'écoutais régulièrement.
Est-ce que c'est une expérience qui peut vous porter encore aujourd'hui ?
Non, je n'avais pas réécouté depuis des années cette...
Donc vous vous retrouvez enfant, là.
Voilà, je me plonge dans mon enfance, absolument.
Et lorsque vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez ?
Je vois des vaisseaux stellaires impressionnants, je vois des paysages de forêts immenses où on s'élève au-dessus, et un mélange de science-fiction et de nature en fait, voilà. C'est ce que j'avais en tout cas enfant, donc c'est ces images qui reviennent.
Nous parlions à l'instant, Jan Kounen, de musique de film science-fictionnel. Voici la scène inaugurale du film de Stanley Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace, film de 1968, pour lequel Kubrick utilise cette musique de Richard Strauss, ainsi par les Zarathoustra. Ici, la version enregistrée par Carl Böhm avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Musique qui, par ce film, a marqué des générations de cinéphiles, dont vous, Jan Kounen, vous étiez enfant. Lorsque vous avez découvert ce film, vous n'étiez pas encore réalisateur.
Ah non, j'étais même un enfant qui ne connaissait pas tellement le cinéma et qui a eu la chance que son père l'amène à la MJC de Grasse, voir 2001 de l'espace. J'avais 8 ans, je crois. Et je crois que je me suis pris, bien entendu, le choc de la relation entre la musique et l'image, de ce que pouvait porter la musique. Et donc ça a été un grand choc. Je me souviens que je me suis dit à l'époque, je me dis je suis heureux de pouvoir grandir et devenir un adulte parce que du coup, je comprendrai ce film quand je serai un adulte.
Et alors ?
Oui, j'ai fini, mais il faut enquêter un peu. C'est pas aussi évident que ça. On finit par voir, mais il faut un peu creuser. Je crois que c'est une des plus belles jonctions entre la musique et l'image, entre.
Qui voilà. N'a pas été de soi. Hein. Vous connaissez les tergiversations, Stanley Kubrick qui fait appel à Alex North, compositeur, qui finalement impose d'autres musiques, notamment celle de Strauss, Richard et Johann. Vous comprenez ces tergiversations de trouver la bonne musique qui va porter le film, qui va faire contre-pied qui...
Il y a beaucoup d'histoires de ce type dans le cinéma. Donc effectivement... Il avait un compositeur et puis il a entendu cette musique, il a essayé et d'un coup la chose a été pliée. Mais il y a beaucoup d'histoires. Wong Kar-wai, c'était pareil. Quand il a fait In the Mood for Love, à un moment donné, il était dans un bar avec son producteur en dessous et il y avait le titre qui tournait. Et quand ils sont remontés, ils l'ont essayé. Donc, cette comment dire, alchimie entre ce qui se passe autour de vous et l'adéquation entre la musique et un film et des images, c'est parfois quelque chose, bien sûr, qu'on peut projeter, prévoir. Ça fait partie de la construction d'un film. Mais c'est aussi des heureux accidents. C'est aussi des moments où, d'un coup, vous entendez quelque chose, ça fait sens. Et c'est très intuitif et sensible, cette alliance. Ça ne peut pas être vraiment mentalisé froidement. Toutes les histoires des grands morceaux de musique au cinéma sont souvent...
De l'ordre de l'intuition pour vous.
De l'ordre d'une forme de...
Vous n'avez pas cherché à comprendre si c'est une adéquation avec l'image ou si c'est un contre-pied. Enfin,
ah non, c'est une évidence. Il y a une évidence, on ne se pose même pas de questions. C'est juste le chemin pour y parvenir. C'est-à-dire que on peut penser une musique, travailler avec un compositeur qui vous livre des musiques, les essayer, et puis d'un coup sortir et entendre dans la rue une musique et se dire « mais c'est peut-être ça, ça n'a absolument rien à voir ». On l'essaye et d'un coup c'est ça.
Alors il y a une musique sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Yann Kounen, c'est « Le Sacre du printemps » d'Igor Stravinsky.
Thank you.
C'était en 2009, votre film Coco Chanel et Igor Stravinsky, avec Anna Mouglalis dans le rôle de Coco, Mad Mikkelsen dans les habits d'Igor. Et dans ce film que vous avez donc réalisé, Yann Kounen, vous reconstituez la création du Sacre du Printemps. C'était en mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, une création pour le moins houleuse, avec le ballet de Nijinsky sur scène, un ballet pour lequel des recherches d'ordre chorégraphique ont été entreprises. Peut-on, Yann Kounen, par des images, par le film, rendre justice à une musique telle que le Sacre du Printemps? Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Alors, je n'essaie pas de rendre justice à la musique. J'essaye de reproduire un événement dont la musique faisait partie, puisque c'était la musique de Stravinsky, mais il y avait aussi toute la chorégraphie de Nijinsky, les costumes, le lieu, le scandale qui est quand même un des pics de l'histoire de la musique, des grands scandales, puisque voilà, c'est une grande histoire connue dans le monde de la musique. Je me disais de faire la reconstitution de ça, ça n'a jamais été fait à une certaine échelle parce que c'est très cher et très complexe. Est très compliqué à tourner, donc on a fait de l'archéologie pour retrouver la chorégraphie, on va dire, et retrouver des éléments. Donc mon but, il était de mettre la caméra et le mouvement au service de ce qui se passait. Ce qui se passait, c'était pas juste le ballet incroyablement novateur de Nijinsky sur cette musique qui tombait sur ce public habitué un petit peu plutôt à des jeunes filles qui en tutu et qui se prenaient comme ça à l'inauguration quelque chose de totalement révolutionnaire, agressif, puissant, punk, complètement punk, c'est cette alchimie. Et c'est ça dont la scène parle. Donc, j'ai vraiment essayé de me mettre au service des différentes étapes, c'est-à-dire à la fois aussi la difficulté pour les danseurs de continuer, la réaction du public, les angoisses de Stravinsky, la fascination de Coco, et cet incroyable lieu qu'est le Théâtre des Champs-Élysées, où ça s'est produit, et on l'a tourné dans le Théâtre des Champs-Élysées. Donc, je faisais un peu plus office de reconstitution de cet événement. Après, sur la musique de Stravinsky, en enquêtant et en faisant le film, et je me suis rendu compte à quel point il a influencé le cinéma à un niveau, interstellaire. C'est-à-dire que vous prenez même des morceaux de Star Wars, ils viennent vraiment de la musique de Stravinsky, ils sont inspirés très fortement. Et d'ailleurs, je crois que si vous venez d'écouter donc le Sacre du Printemps de 1913, vous ressentez certainement l'écriture d'Archer, l'écriture de violon, les cordes, les... toute cette écriture du film de suspense, de film fond, voilà, tout le cinéma. Donc Stravinsky et le cinéma, c'est une grande histoire, même s'il n'a pas eu de film, il n'a pas fait de musique pour des films, mais il a eu un film sur sa musique et sur lui.
Alors là, vous aviez pris la version de Simon Rattle à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Pourquoi cette version plutôt qu'une autre? Vous aviez eu le choix ou pas?
On a plusieurs choix. Il fallait accéder aux 72 pistes ou 96 pistes pour pouvoir séparer chaque instrument en fonction de la position de caméra. C'est avec cet enregistrement qu'on a pu le faire. C'est-à-dire que nous, au mixage, quand la caméra était près des violons, vous entendez plus fort les violons quand on était loin, etc., etc. On a pu recréer l'espace sonore. Et donc, ça, c'était important d'avoir accès aux multipistes de l'enregistrement. Et je crois aussi qu'elle me plaisait beaucoup et me facilitait un petit peu la tâche parce qu'il avait... Elle était un peu plus lente, je pense. Il y a eu des versions plus agressives, voilà. Et comme le sacre est déjà très agressif, je me suis dit que ça m'aiderait d'avoir cette version que je trouve très belle, hein, puisque je l'ai pris dans le film. Et j'ai pu avoir le multipiste, et voilà les raisons. Un petit peu d'artistique et beaucoup de technique.
Est-ce que vous êtes vous-même musicien, Yann Kounen?
Non, je ne suis pas musicien. J'ai appris quand j'étais enfant un instrument, j'ai fait un mauvais choix.
Lequel?
Le violon.
Ah, le violon, donc les coups d'archet, vous connaissez.
Voilà, mauvais choix, mais...
Pourquoi mauvais choix?
Non, parce que j'étais pas... Voilà, j'étais pas, vous bien le dire, j'étais pas doué. Et quand vous êtes pas doué au piano, ça va. Quand vous êtes pas doué au violon, c'est très dur pour le chien, les gens qui se mettent à hurler, l'entourage. Et si du coup vous renoncez un peu à travailler, ça devient... compliqué.
Mais travailler avec un orchestre, pour vous, ça a du sens?
Ah, mais j'ai adoré quand on a... Ça a été un très très beau moment quand on est allé à Londres, à Abbey Road, enregistrer la musique du film. Et c'était magnifique de voir votre image soit réduite en tout petit et de voir ce grand orchestre qui joue la BO de Gabriel Yared et vous êtes assis dans un coin et après elle prendra une place un peu de distance dans votre film. Mais c'est une des choses que j'aime au cinéma, c'est les enregistrements de musique. Parce que la beauté du cinéma, vous êtes chef d'orchestre, on va dire moi en tout cas, c'est comme ça que je vois mon métier. Mais vous travaillez avec tous les arts en fait. Et voilà, donc quand il en arrive à la musique, c'est toujours une partie très agréable.
My love, what are you doing? I mean, I refuse to pay for another one.
Ce sont les premières mesures, on va dire, de votre film, Ian Koonen.
C'est intéressant de voir,
coucou,
effectivement.
Igor. Intéressant de le voir ou de l'entendre plutôt.
Moi, je le vois, mais c'est intéressant d'entendre sorti de ce que c'est. Alors, la nature de ce que c'est, ce générique, c'est la musique du générique. Le générique, c'est ce son qu'on vient d'écouter, qui sont la musique des sphères, quelque part. J'ai essayé, en tout cas, de manifester ou de faire traverser cette idée que c'est le monde source de l'inspiration. Et à l'image, ce sont des formes, d'ailleurs comme des motifs indigènes, ce sont les formes abstraites de ces espaces abstraits, mais purement émotionnels, comme s'ils venaient descendre pour ouvrir le film et rentrer dans les personnages. Et ça faisait partie du sujet, cet artiste... Voilà, inspiré par moi, ce que je qualifierais de la musique des sphères. C'est-à-dire que le compositeur est capable de se laisser traverser, devient le réceptacle de quelque chose, celui qui traduit, qui note, on va dire. Et je crois qu'il y a des choses sur certains grands compositeurs dont Stravinsky de cet ordre.
J'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte d'écoute d'ordre fœtal. J'ai l'impression de percevoir que de très loin vient un liquide, les perceptions musicales. C'est un sacre aquatique quasiment.
Oui, c'est comme une mélodie de l'éther qui essaye de venir au monde humain et de s'organiser. Et à la fin, vous entendez des voix parce qu'on rentre dans le film, c'est la fin du générique. Mmh. Mais c'est toute cette entrée et c'est très agréable de l'écouter sans l'image.
Autre moment de ce film.
Apprenez-moi à jouer.
Maintenant. Comme ça. Oui, c'est bien, c'est bien.
J'ai
Autre extrait de ce film Coco et Igor que vous avez tourné Ian Koonen en 2009 et dans lequel on retrouve Anna Mouglalis et Mads Mikkelsen côte à côte faisant un quatre mains tout facile qu'avait prévu Igor Stravinsky qui s'intitule Les cinq doigts, Moderato. Pourquoi avoir retenu cette pièce de piano justement pour sa facilité, Ian Koonen? Pour
forcément.
Sa proximité, la proximité de deux acteurs?
Oui, c'est-à-dire qu'elle se prête à la fois dans sa tonalité, ce qu'elle porte, émotionnellement, et le fait qu'elle soit plus facile pour permettre à ce que ce soit crédible qu'on la prenne à quelqu'un, en l'occurrence que Igor la prenne à Coco, et du coup il y a de la proximité. Donc c'était un beau morceau pour toutes ces c'était le morceau parfait pour toutes ces raisons. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs morceaux de musique dans le film. Et Mats, notamment, joue des morceaux assez complexes au piano. Et Mats est un danseur. Et donc, il a dû composer pour retrouver, mémoriser les mouvements des doigts et utiliser ses codes de chorégraphie. Il a fait une chorégraphie de ses doigts, il avait une partition. Et au début, on devait faire des trucages. Et au final, on a réussi à s'en passer. Donc, quand vous le voyez jouer du piano, il y a des parties, vous voyez la caméra qui remonte du piano sur lui. C'est parce qu'il y a des parties qui avaient beaucoup de mal à jouer. Mais il y a des parties très complexes qui jouent.
On le voit jouer réellement. Alors, oui, il est doublé par Christophe Boukoudjian au piano, mais effectivement, il y a des endroits où on a l'impression, donc c'est réel.
Oui, c'est réel. C'est les doigts, en tout cas. Le piano a été rejoué, hein, oui. Mais les doigts
sont en rythme, en tout cas.
Sont en rythme sur le canapé.
Oui, ce qui donne vraiment l'illusion. C'est intéressant de savoir que c'est de l'ordre de la chorégraphie. C'est lui qui vous a proposé ça, ou ça a été un...
Mats, c'est un grand travailleur. C'est vraiment un grand travailleur. Il a dû travailler la langue, le russe, le français et le piano. Et donc, il a beaucoup travaillé pour ça. Parce que le plus beau compliment que j'ai eu sur le film, c'est quand j'ai montré le film à Gabriel Yared pour qu'il fasse la musique. Et il connaissait pas l'acteur à l'époque. Et il s'est tourné vers moi et il me dit, vous avez bien fait de prendre un pianiste. D'habitude, voilà. Alors ça, c'était le plus beau compliment que je me suis empressé de dire à Mats. Donc j'ai eu de la chance sur ce projet. Mais c'est un très beau projet parce que c'est très sensible. Et j'étais porté aussi par ces acteurs et par Claudie Aussard, qui est une productrice magnifique du cinéma. Et donc il y avait vraiment un élan très beau à fabriquer ce film.
France Musique, Musique et moi, Priscille Lafitte.
Daniel Hope au violon avec l'orchestre de chambre du Concerthaus de Berlin, dirigé par André de Ritter, dans cette recomposition, ce réarrangement par Max Richter des quatre saisons d'Antonio Vivaldi. Jan Koonen, pour vous, quelle forme visuelle prend cette musique une fois qu'elle est réarrangée? Est-elle si différente de Vivaldi? Vous amène-t-elle autre part?
Je pense qu'elle m'amène sans doute dans le même endroit, mais totalement différemment. C'est beaucoup plus sur la vibration que ça procure. L'arrangement, le choix des sons, il y a une dimension, pour moi, plus énergétique dans la musique, plus spirituelle. Voilà, c'est la musique de l'âme de la nature, des esprits, de ce monde invisible, ou en tout cas, de cet espace. Je trouve que j'aime beaucoup Max Richter dans ce qu'il fait de toute façon, et je trouvais que dans cette reprise, c'est toujours étonnant parce qu'on a une histoire avec une musique, on l'a tous entendue, et d'un coup c'est comme si d'un coup vous vous déplaciez face à une peinture et vous voyez un petit peu autre chose sur le côté.
Elle est déformée?
Oh non, moi je dirais je sais pas, en fait ce que je trouve dans l'adaptation, hein, puisqu'après tout on fait ça aussi au cinéma, c'est toujours intéressant l'adaptation. Il y a une œuvre qui existe déjà, et je crois que quand on fait une adaptation, que ce soit d'un livre ou d'un film ou un remake ou voilà, il y a la notion de quel est le cœur de l'œuvre, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il y a au centre comme émotion, perception, sensation, qu'est-ce qui véhicule d'invisible, d'impalpable ce livre. C'est pas les événements, c'est pas la façon dont parlent les personnages, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est ce que je trouve que fait Max Richter.
Qu'est-ce qu'on entend ici, Jan Koonen?
C'est une guérisseuse Shipibo qui chante un Icaros. C'est donc un chant en cérémonie pour guider ou soigner le patient qui est face à elle. Et elle est sous l'effet de l'ayahuasca ou d'autres plantes. Et le patient peut l'être ou ne pas l'être. Et cet Icaros, c'est vraiment la projection. On le sent, c'est beaucoup de douceur, hein. Elle va dans cette ivresse qui est très forte, elle va se relier aux plantes, à sa foi pour cette médecine, et elle va chanter depuis son espace émotionnel. Et comme on est très sensible dans ces moments-là, le chant devient le véhicule de la guérison.
Quelle musique est-ce à vos oreilles, Yann Kounen ? Du coup, est-ce une musique thérapeutique ? Est-ce une musique méditative ?
C'est plus qu'une musique méditative, c'est une musique mémorielle. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé avec ces chants, avec ces hommes et ces femmes, des centaines d'années dans ces espaces où le temps se dilate à l'infini et on vit... On a l'impression, ce n'est pas le cas, mais on a l'impression de faire le grand voyage d'Andros et de ne pas revenir. C'est un des grands classiques de ces plantes. Et d'être tenu par la main par ces guérisseurs chez Pibot, ce peuple, cette connaissance, ce lien à la nature qu'ils ont. Donc ça évoque bien plus que... Voilà tout ça. Et ça réveille même, si je me mets à écouter vraiment de manière concentrée ces chants, je réouvre les expériences en fait. Parce que c'est des patterns, c'est des motifs d'émotions qui se tissent. Et quand vous êtes dans les visions avec ces plantes, et ben, les chants viennent quelque part se tisser en vous aussi. Et donc, voilà.
Donc vous pourriez réécouter ces musiques sans psychotropes.
Ah oui, ça c'est bien sûr, oui, bien sûr. Pas besoin. Je sais pas, je pense que des gens qui écoutent, ils voient la douceur et la beauté de ce chant. Ouais.
Ce sont des chants qui accompagnent tout du long cette expérience.
Absolument. C'est la méthode, le travail du guérisseur, c'est d'abord de prendre les plantes, et avec les plantes, il va devoir stabiliser par des chants sa propre ivresse. Parce que c'est très fort. Pour qu'il ait des belles pensées, qu'il rentre dans les visions, qu'il stabilise ses propres visions. Et donc, il fait un chant pour ça. C'est des chants cognitifs. Je centre mes sens, je centre mon corps, médecine soigne-moi. C'est entre la prière et un algorithme cognitif. C'est cette espèce de méthode pour pouvoir être dans cette ivresse, bien relié à ses propres émotions positives, à son cœur, ne pas avoir peur, chasser la peur et se relier au monde des esprits. Et une fois qu'il a stabilisé l'ivresse, c'est le premier chant, ensuite il va aller chanter pour chaque patient. Et donc ça dure toute la nuit, toute la durée de la cérémonie.
Est-ce que vous comprenez aussi l'interrogation qu'ont certains ethnologues, qui est d'ailleurs formulée dans l'exposition au musée du Quai Branly, se demander si l'intérêt touristique grandissant pour ces expériences amène aussi les Indiens parfois à modifier ce rituel et à chanter non plus pour appeler les esprits, les amadouer, les séduire, mais à chanter pour les personnes extérieures, les touristes qui vont venir, que ça modifie le rituel même?
Dans la vie, toutes les choses se modifient. Et toute la perméabilité des cultures et des mondes forcément se modifie. Maintenant, on parle de tourisme chamanique et maintenant, moi ce que je dis, c'est vrai, si vous arrivez vers quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, parce que c'est une dizaine d'années qu'il faut pour former un guérisseur, qui doit faire des diètes profondes dans la jungle d'un an, enfin c'est vraiment quelque chose, c'est une école intense, c'est difficile. Donc si vous tombez sur quelqu'un qui met trois plumes sur la tête, même si c'est un indigène, il prend pas le costume et puis il va vous faire une cérémonie, même si c'est le cas, quand vous allez boire les plantes, sauf si c'est une préparation qui est très diluée, si elle est très diluée, vous aurez deux, trois petites visions, vous pourrez dire « oh là là, c'était formidable en rentrant à Paris hein. ». Mais si par contre la plante est forte, le touriste il disparaît. Le danger, c'est pas que ça se change, parce qu'ils ont une telle connaissance qu'ils vont pas la changer. Ils commencent à comprendre un peu nos pathologies un peu mieux, parce qu'au début, ils ne comprenaient pas nos pathologies. C'est quoi le stress? Il y a la peur, mais le stress, c'est quoi? C'est peur de projection loin. Donc, quelque part, vous êtes face à l'expérience, et là, il faut la traverser. Et donc, c'est là qu'il vaut mieux être un guérisseur ou une guérisseuse qui est, qui a de la bouteille, qui est quelqu'un de vraiment initié, qui connaît bien le monde des plantes et qui a des plantes. Je ne crois pas que ça va influencer quoi que ce soit. En tout cas, ça n'a rien changé. J'ai vu, de ce point de vue, à l'intérieur de la cérémonie, en 24 ans, rien n'a changé de l'intérieur de la cérémonie. Après, autour, oui. Comment ça se passe? Qui organise Les guérisseurs, s'ils sont bien formés dans ces ethnies-là, ils sont là pour aider les gens. Alors après, il y a tout. C'est comme la vie. Il y a des gens qui peuvent être mieux intentionnés que d'autres, hein, bien sûr. Mais s'il y a des bonnes intentions, c'est une mécanique. C'est un savoir et c'est tellement intense que ça sera toujours à nous de nous adapter.
Nous avons fait un saut dans l'espace et un saut dans le temps en passant des chants des Chipibous du Pérou au chant d'Hildegard von Bingen, ici interprété par l'ensemble Sequentia, dirigé par Barbara Thornton. Hildegard von Bingen, moniale bénédictine, compositrice de chants pour les offices et donc naturopathe. Elle est une inspiratrice pour vous, Yann Kounen, j'imagine.
Ben oui, je dirais que l'enchaînement est plutôt pas mal, c'est-à-dire que la Chipibo vous amène dans cet espace que décrit si bien aussi Hildegard von Bingen. Oui, c'était une femme exceptionnelle, et exceptionnelle parce qu'elle était avec les plantes, avec les pierres. C'était vraiment à la frontière entre spiritualité, pratique de guérisseur, religion, et c'était une femme importante, et j'aime beaucoup sa musique. Donc je me disais, voilà, là, avec les deux sur France Musique, là, ça veut dire une bonne petite envolée dans le monde des sphères, et dans la musique des sphères.
Dans la musique des sphères. On aimerait terminer avec une dernière musique, une musique de film, cette fois signée Howard Shore, The Shire, pour Le Seigneur des Anneaux. Que vous inspire cette musique?
C'est le retour à la maison. Je pense que c'est une bonne chose de conclure. Quand on écoute Hildegard von Bingen, les Chipibous, et on monte dans les espaces, il faut venir, revenir, poser les pieds sur terre, être bien joyeux chez soi. Voilà, on n'a pas traversé le Mordor, nous, aujourd'hui, mais le retour... J'aime aussi cette musique, elle est très belle pour ça. Et c'est vrai que moi, après un tournage, j'ai écouté cette musique et j'avais l'impression... J'étais très ému de rentrer chez moi de la même manière que nos hobbits rentrent chez eux après leur grande aventure. Donc c'est le retour à la maison.
Merci beaucoup Yann Kounen d'être venu dans Musique et moi ce matin. Vous êtes donc l'auteur d'une bande dessinée Docteur Ayahuasca, dans laquelle on plonge dans vos expériences au Pérou, expériences dont vous faites état aussi lors d'entretiens qui sont publiés à la même maison d'édition, Guy Trédaniel. Et puis on retrouve aussi certains de vos dessins dans l'exposition qui est en ce moment au musée du Quai Branly, exposition qui s'intitule « Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne » et qui est donc au musée du Quai Branly jusqu'au 26 mai 2024. Merci à tous. toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi ce matin. Nadège Antonini à technique, Claire Lagarde à la réalisation, Maud Nourry attachée de production. Et puis petit aparté, je signale au sujet de Frédéric Mitterrand qui vient de nous quitter. Il existe dans nos podcasts hein, Musique et moi avec cet ancien animateur de télévision, romancier, ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, donc dans Musique et moi, enregistré avec Elsa Boublil en 2017. Passez un très bon dimanche sur France Musique et à la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.